Deux jours avant Noël, me voilà en route pour Marseille. Il est convenu que ma mère vienne me chercher à la gare Saint-Charles. Et comme, pesante, entravée, fatiguée, j'attends sur le quai en pensant qu'elle a oublié notre rendez-vous ou que toute cette histoire est tellement improbable je vois venir vers moi les rois du monde. Golbasto momarene vlam et gurdilos chefin muli uligue, très puissant empereur de Lilliput. Sur cet îlot misérable, dont le museau est orné de deux lames triangulaires et dentelées, en passant près de ces curieux animaux, je pus les examiner à loisir, car ils ne se dérangeaient pas. L'un était de petite taille, vigoureusement musclé, large d'épaule, robuste de membres, la tête forte, la chevelure abondante et noire, la moustache épaisse, le regard vif et pénétrant, et toute sa personne empreinte de cette vivacité méridionale qui caractérise en France les populations provençales. Mes deux compagnons s'étendirent sur le tapis de la cabine et furent bientôt plongés dans un profond sommeil. Pour mon compte, je cédai moins facilement à ce violent besoin de dormir. Trop de pensées s'accumulaient dans mon esprit. Trop de questions insolubles s'y pressaient, trop d'images tenaient mes paupières entrouvertes. Où étions-nous? Quelle étrange puissance nous emportait? Je sentais, ou plutôt, je croyais sentir, l'appareil s'enfoncer vers les couches les plus reculées de la mer. De violents cauchemars m'obsédaient. J'entrevoyais dans ces mystérieux asiles tout un monde d'animaux inconnus, dont ce bateau sous-marin semblait être le congénère, vivant, se mouvant, formidable comme eux. Puis mon cerveau se calma, mon imagination se fondit en une vague somnolence, et je tombai bientôt dans un morne sommeil. Il est certain que je revins promptement à moi, grâce à de vigoureuses frictions qui me sillonnèrent le corps. J'entrouvris les yeux. Un peu après-midi, la mer étant calme et la marée basse, je pus avancer jusqu'à un quart de mille du bateau. La mer était distinctement visible dans un rayon d'un mille autour du Nautilus. Quel spectacle ! C'est ce qu'on appelle une mer de lait, vaste étendue de flots blancs qui se voit fréquemment sur les côtes de l'Amboine et dans ses parages. Des milliers de points lumineux brillaient au milieu des ténèbres. C'étaient les yeux de crustacés gigantesques, tapis dans leur tanière, des homards géants. À quel ordre appartenaient ces articulés auxquels le roc formait comme une seconde carapace? Où la nature avait-elle trouvé le secret de leur existence végétative? Et depuis combien de siècles vivaient-ils ainsi dans les dernières couches de l'océan? Mais le ciel devenait de plus en plus menaçant. Des symptômes d'ouragan se manifestaient. L'atmosphère se faisait blanchâtre et laiteuse. Aux cirrus à gerbes déliées succédaient à l'horizon des couches de nimbocumulus. D'autres nuages bas fuyaient rapidement. La mer grossissait et se gonflait en longues houles. Les oiseaux disparaissaient, à l'exception des satanicles, amis des tempêtes. Le baromètre baissait notablement et indiquait dans l'air une extrême tension des vapeurs. Le mélange du storm glass se décomposait sous l'influence de l'électricité qui saturait l'atmosphère. La lutte des éléments était prochaine. Après avoir ramé, ou plutôt dérivé pendant une lieue et demie peut-être, une vague furieuse, s'élevant comme une montagne, vint en roulant à notre arrière, nous donner le coup de grâce. Elle nous saisit avec tant de furie qu'elle fit chavirer la chaloupe et nous projeta au loin. Notre situation était vraiment tragique. Il était impossible de remettre notre bateau à flot, et il ne nous restait plus qu'à sauver notre vie du mieux que nous pouvions. La dernière vague avait été bien près de m'être fatale, car elle me jeta contre un quartier de roc avec une telle force qu'elle me laissa presque évanouie. Je relevai la tête une dernière fois, puis je m'abîmai. Un corps dur me heurta. Je m'y cramponnais. Je sentis qu'on me retirait, qu'on me ramenait à la surface de l'eau, que ma poitrine se dégonflait, et je m'évanouis. Le lendemain, 22 mars, les dernières lueurs du crépuscule se fondaient dans la nuit, le froid était vif. Les constellations resplendissaient avec une surprenante intensité. Au zénith brillait cette admirable croix du sud, l'étoile polaire. Le thermomètre marquait 12 degrés au-dessous de zéro, et quand le vent fraîchissait, il causait de piquantes morsures. Les glaçons se multipliaient sur l'eau libre, la mer tendait à se prendre partout. De nombreuses plaques noirâtres, étalées à sa surface, annonçaient la prochaine formation de la jeune glace. Évidemment, le bassin austral, gelé pendant les 6 mois de l'hiver, était absolument inaccessible. Que devenaient les baleines pendant cette période? Sans doute, elles allaient par-dessous la banquise chercher des mers plus praticables. Pour les phoques et les morses, habitués à vivre sous les plus durs climats, ils restaient sur ces parages glacés. Ces animaux ont l'instinct de creuser des trous dans des ice fields et de les maintenir toujours ouverts. C'est à ces trous qu'ils viennent respirer. Quand les oiseaux, chassés par le froid, ont émigré vers le nord, ces mammifères marins demeurent les seuls maîtres du continent polaire. À mi-chemin, la bruine se remit à tomber, et on avait l'impression que les montagnes larmoyaient. Il y eut des éclairs. La pluie devint plus forte, et dans cette contrée déjà obscure, les ténèbres s'épaissirent encore. Nous marchions à l'aveuglette, au bord du précipice. Les mains en avant, sous les trombes d'eau qui nous tombaient sur la tête, comme si la nature entière était en train de se dissoudre. Un vacarme prolongé retentit, un braiement de mort. Et pour une surprise, c'en fut une. À travers la brume, c'était tellement étonnant ce qu'on découvrait soudain que nous refusâmes d'abord à y croire. Et puis, tout de même, quand nous fûmes en plein devant les choses, tout galérien qu'on était, on s'est mis à bien rigoler en voyant ça, droit devant nous. L'homme montagne. Des voyageurs faisaient le cercle autour de lui, l'ayant pris pour un guide complémentaire. Ils tournèrent la tête dans la direction de son regard. On sentait que dans son langage habituel, il devait prodiguer des prosopopées, les métonymies et les hypallages. Ce que, d'ailleurs, je ne fus jamais à même de vérifier, car il employa devant moi un idiome singulier et absolument incompréhensible. Le véritable voyage commençait. Le volcan n'occupait pas la partie centrale de l'île. Il se dressait, au contraire, dans la région du nord-ouest et semblait marquer la limite des deux zones. La nuit était déjà faite et l'obscurité devait permettre de reconnaître si, aux vapeurs et aux fumées accumulées à la bouche du cratère, se mêlaient soit des flammes, soit des matières incandescentes projetées par le volcan. « Le cratère est en feu !» s'écria Harbert, qui, plus leste que ses compagnons, était arrivé le premier au plateau. Le mont Franklin, distant de 6000 environ, apparaissait alors comme une gigantesque torche, au sommet de laquelle se tordaient quelques flammes fuligineuses. Tant de fumée, tant de scories et de cendres peut-être s'y étaient mêlées, que leur éclat, très atténué, ne tranchait pas au vif sur les ténèbres de la nuit. Mais une sorte de lueur fauve se répandait sur l'île et découpait confusément la masse boisée des premiers plans. D'immenses tourbillons obscurcissaient les hauteurs du ciel, à travers lesquels scintillaient quelques étoiles. Malgré les ténèbres, le bruit, la surprise, l'émotion, je compris ce qui venait de se passer. Au-delà du roc qui venait de sauter, il existait un abîme. L'explosion avait déterminé une sorte de tremblement de terre dans ce sol coupé de fissures, le gouffre s'était ouvert, et la mer, changée en torrent, nous y entraînait avec elle. Un tremblement de terre ? Où étais-je ? J'étais trempé. Et je n'avais pas de vêtements pour me changer, rien à manger, rien à boire pour me réconforter. Je n'avais d'autre perspective que celle de mourir de faim ou d'être dévoré par les bêtes féroces. Je voyais bien que mon sort était désespéré et à quelle triste fin j'étais condamné. Mais la nuit vint et enveloppa de ses ombres le houleux océan. Le jour suivant, je touchai une autre île, puis une troisième, puis une quatrième. Je naviguai tantôt à la rame, tantôt à la voile. Mais le détail de mes tribulations ennuierait le lecteur. Disons simplement que le cinquième jour, j'arrivais à la dernière île en vue, au sud-sud-est de la précédente. Trois jours après mon arrivée, je me promenais par curiosité le long de la côte nord-ouest de l'île, quand j'aperçus dans la mer, à une demi-lieue environ, quelque chose qui ressemblait à un bateau retourné. Ayant retiré mes bas et mes souliers, et m'étant avancé de 200 ou 300 yards dans la mer, avec de l'eau jusqu'à mi-jambe, je vis l'objet se rapprocher de plus en plus, poussé par la marée. Les poissons-mouches volaient de branche en branche, comme un essaim de colibris, tandis que de jaunes lépisacanthes, à la mâchoire hérissée, aux écailles aiguës, des dactyloptères et des monocentres se levaient sous nos pas, semblables à une troupe de bécassines. Quel était ce monde exorbitant que je ne connaissais pas encore? Un îlot? Non, monsieur le professeur, non. Tout ce que vous voudrez, excepté cela. L'îlot représente à s'y méprendre un cétacé immense. Un poulpe gigantesque, peut-être? Alors, nous sommes perdus. Il me serait bien difficile d'exprimer le trouble, la confusion de mes pensées. Pour sa part, Conseil croit avoir aperçu une tortue large de 6 pieds, ornée de 3 arêtes saillantes, dirigée longitudinalement. Je regrettais de ne pas avoir vu ce reptile, car, à la description que m'en fit Conseil, je crus reconnaître le luth qui forme une espèce assez rare. « Malédiction !» s'écria le commandant Farragut. « L'épouvantable bête !» s'écria-t-il. Je regardai à mon tour et ne pus réprimer un mouvement de répulsion. À mesure que nous approchons, les dimensions de la gerbe liquide deviennent grandioses. Devant mes yeux, s'agitait un monstre horrible, digne de figurer dans les légendes tératologiques. C'était un calmar de dimension colossale, ayant 8 mètres de longueur. Il marchait à reculons, avec une extrême vélocité, dans la direction du Nautilus. Il regardait de ses énormes yeux fixes, à teinte glauque. Ses 8 bras, ou plutôt ses 8 pieds, implantés sur la tête, qui ont valu à ces animaux le nom de céphalopodes, avait un développement double de son corps et se tordait comme la chevelure des furies. On voyait distinctement les 250 ventouses disposées sur la face interne des tentacules, sous forme de capsules semi-sphériques. Dans le même temps, je sentis remuer quelque chose de vivant sur ma jambe gauche. Puis cette chose avançant doucement sur ma poitrine, arriva presque jusqu'à mon menton. Infléchissant alors mon regard aussi bas que je le pus, je découvris que c'était une créature humaine, haute tout au plus de 6 pouces, tenant d'une main un arc et de l'autre une flèche, et portant un carquois sur le dos. Je sentis, au même instant, une 40aine au moins d'êtres de la même espèce, et qui me parurent tels, grimpant derrière le premier. J'éprouvai la plus inimaginable surprise et poussai un cri si étourdissant qu'ils s'enfuirent tous, épouvantés. Quelques-uns d'entre eux, comme je l'appris par la suite, sautèrent du haut de mes côtes pour échapper plus vite et se blessèrent en tombant. Néanmoins, ils ne tardèrent pas à revenir, et l'un d'entre eux, qui s'aventura assez loin pour avoir une vue complète de mon visage, levant soudain les mains et les yeux en signe d'émerveillement, s'écria d'une voix aiguë mais distincte « Échina d'Aigule ». Je secouai la tête avec un air de profonde incrédulité. Il faut en finir immédiatement avec ce voyage grotesque.